Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une nouvelle série intitulée « La délivrance du maléfice de Satan ». Première partie, la délivrance du maléfice de Satan et l'insuffisance des sciences. Ça se trouvait à Riga. Et là, un professeur en théologie avait donné une conférence sur la puissance de la foi à une société psychique. Voici un résumé de ce qu'il a dit. Kant a déclaré que notre connaissance la plus élevée était de reconnaître que nous ne savions rien. Et Socrate, qu'est-ce qu'il a dit ? Absolument la même chose. Et maintenant, monsieur le professeur, citez-moi une phrase philosophique ou scientifique qui puisse se défendre et que l'on puisse prouver, il n'y en a point. Il n'y en a point. Ce fut la réponse. Et le professeur termina vite son résumé. Une fois, j'ai demandé, c'est toujours ce professeur en théologie qui nous parle, une fois, j'ai demandé à un professeur de philosophie, qu'est-ce que c'est la philosophie exactement ? La réponse fut, c'est la recherche de la vérité. Eh bien, je lui ai répondu, avez-vous trouvé la vérité ? Non, fut la réponse. Et si je l'avais trouvée, je poursuivrais toujours mes recherches. C'était dans une ville dans la région de Mecklenburg, en Allemagne. J'avais passé la soirée en prêchant l'évangile, et à la fin, je parlais et priais avec plusieurs personnes qui sont restées encore après l'exposé dans la salle et qui voulaient être guéries. Je fis la connaissance d'un monsieur qui se présenta comme étant professeur X. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Lui demandai-je. Eh bien, je cherche la paix, mais votre système ne me convient pas, dit-il. Je continuai. Pouvez-vous alors me préconiser votre système à vous ? Non, fut la réponse du professeur. Parmi les médecins, il est également bien connu que la médecine ne sert que à alléger le mal et que la médecine dite curative n'existe pas. Le malade croit à la médecine, alors il le subit. Malheureusement, presque tous, sinon tous, reçoivent des allégements toxiques qui ne sont pas toujours utiles pour le corps. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous rendre chez le médecin ou le chirurgien. Je n'ai pas dit cela, mais juste pour dire qu'ils ne peuvent pas tout résoudre. La science médicale, elle a vraiment beaucoup accompli. Eh bien, on peut dire chapeau. Mais voilà textuellement ce qu'un ancien interne d'un institut de recherche très connu m'a dit. Il a dit, si vous saviez combien d'individus morts de la poussière au cours des essais d'un sérum nouvellement découvert, vous seriez bouleversé. L'apôtre Paul avait raison. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines subtilités. suivant les traditions des hommes. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Que disent les saintes Écritures? Je vous prie de noter, si vous le pouvez, les indications de la Sainte Bible que je vais vous donner, car c'est très important que vous puissiez d'abord contrôler si on vous dit la vérité, et deuxièmement, ça sera intéressant aussi pour vos propres recherches. Alors encore une fois, que disent les Saintes Écritures? Prenez tout d'abord le livre de l'Exode, Das zweite Buch Moses, chapitre 15, verset 26. Et là, il nous est dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ensuite, notez Proverbe, chapitre 4, verset 22, où il est dit, les paroles de Dieu sont la vie de tous ceux qui les trouvent et la santé de tout leur corps. Il y a également la dégradation de la culture. Il y a quelque temps, un article apparu dans les journaux. Un spirit avait appelé un esprit, c'est-à-dire un démon, avec lequel il s'était mis en relation et lui avait dit d'un ton satisfait, « Nous avons fait du chemin, nous avons vous appelé souvent, nous vous appelons et nous servons de vous aussi souvent et autant que nous voulons. » « Oh, bien au contraire, répondit le démon, nous n'avons fait Oui, nous avons fait du chemin, c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous passer de nous, c'est là le problème. Car nous faisons avec vous ce que nous voulons. J'espère que vous avez compris, et je le répète, le démon a répondu, au contraire. Nous avons, il est vrai, fait du chemin. Vous ne pouvez pas vous passer de nous. Et nous faisons avec vous tout ce que nous voulons. Et c'est ainsi dans le monde entier. Chers amis, tous les pays sont remplis de magiciens, des spirites, des sorciers, des diseurs d'augures, des nécromanciers, des médiums, des astrologues, des sorciers, des chamans, et tout le monde les consulte. À Berlin comme à Paris, on voit de longues lignes de belles voitures garées devant les maisons des diseurs d'aventure, d'avenir, et cela pendant des heures. J'ai entendu parler de ministres de certains pays qui ne font rien sans aller à la loge ou chez le diseur de prévision pour une consultation. J'ai entendu parler de la femme d'un pasteur qui avait l'intention de partir en voyage à 7 heures du soir, mais qui voulait d'abord consulter le magicien. Il lui a dit carrément de venir chez lui à 7 heures moins le quart. Elle l'a fait pour obtenir son conseil, et puis il est parti pour la gare à toute vitesse en taxi. À Berlin, un affreux magicien, qui mijote toujours quelques mauvais coups, se fait vénérer comme étant le Saint-Esprit. Et toute cette armée de magiciens commettent des crimes contre le peuple, non seulement sous les yeux des autorités, mais jusqu'à un certain degré, avec une licence de le faire, payant des impôts sur leurs bénéfices et sur leurs revenus. Or, il n'y a personne dans la ville qui chasse ces magiciens. Voici le témoignage d'un pasteur. Au mois de décembre, je prêchais l'Évangile et la bonne nouvelle de la rédemption complète en Jésus-Christ fut confirmée par Dieu. Beaucoup de personnes furent confirmées, furent sauvées, ont accepté Jésus-Christ et ont été même guéries de leur maladie, ont été délivrées des démons qui les possédaient à cause des péchés liés à la magie. Au milieu de l'heure d'intercession pour ces pauvres captifs, voilà qu'un agent de police demanda d'un ton cassant « Votre licence de commerce, s'il vous plaît. »« Oh, mais je n'ai pas de licence, » répondis-je. « Alors, il vous est défendu de prêcher jusqu'à ce que vous puissiez donner preuve que vous travaillez bénévolement. » « Oh, pardonnez-moi, mais je suis prédicateur de l'Évangile et je travaille depuis 27 ans bénévolement. Je n'ai jamais demandé aucune rémunération à personne. » Sans plus de cérémonie, on m'a arrêté. Quelle étrange tragédie! Un prédicateur de l'Évangile doit être arrêté et mis au même niveau que les 10 heures d'avenir, parce que les autorités ne comprennent plus que le salut et la guérison des malades et l'expulsion de démons font partie du travail du Christ et du Saint-Esprit. Par conséquent, le prédicateur de l'Évangile, tout comme le 10 heures d'aventure et d'avenir, s'avère obligé de montrer sa licence. Et maintenant, pour mieux expliquer cette question, je cite la réponse divine qui a été donnée à Israël. Notez s'il vous plaît Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 15. Et je vous demanderai de noter les indications bibliques que je vais vous donner, car il y en a beaucoup et ils sont importants. Donc, le livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 15, nous dit « Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni de devin qui se mêle de deviner, ni enchanteur qui use d'enchantement, ni diseur de bonne aventure, ni aucun qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu chasse ces nations-là de devant toi. Tu vivras dans l'intégrité avec l'Éternel ton Dieu, car ces nations-là dont tu vas posséder le pays écoutent les pronostics et les devins. Mais toi, l'Éternel ton Dieu ne t'a point permis de faire ainsi. » J'ai dit Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 15. Et maintenant, écoutez un peu la promesse divine. L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, d'entre des frères, et vous l'écouterez. Ce prophète fut Jésus et fils de Dieu. Dieu, le Père, l'a envoyé. Et maintenant, regardons encore une fois notre culture actuelle, la chrétienté de nos jours. Tout le monde court de nouveau chez les 10 heures d'avenir à cause de qui les Cananéens sont devenus coupables selon la loi divine et furent chassés. Pour cette raison-là, le jugement de Dieu pèse sur le monde entier et l'acte final de la désintégration totale est imminente. Tout le monde le sait. Les hommes d'État le savent. Les pratiquants le savent. Certes, on parle de Jésus-Christ. On parle beaucoup de Jésus-Christ, mais on ne l'écoute plus. On n'obéit plus à ses commandements. On ne croit plus qu'il nous a délivrés du maléfice de Satan. Mes chers amis, nous avons remarqué qu'il y a des circonstances dans lesquelles des croyants pieux et éminents qui remplissent toutes les conditions nécessaires ne rencontrent toujours aucun succès dans leurs prières. Pourquoi ? Parce que une opposition très puissante les confronte. Nous avons cité l'exemple de Daniel et nous avons noté que le Seigneur voulait répondre à la prière qui était présentée et que Daniel n'avait commis aucune faute, mais que des révélations vitales furent perdues par quelqu'un, une entité spirituelle au service de Satan. Pendant 3 semaines, il y a eu un silence total en provenance du ciel, et cela était simplement provoqué par une intervention satanique. Puisque cela dépasse notre domaine humain et que c'est un facteur sur lequel nous ne puissions pas faire grand-chose, nous devons étudier attentivement ce problème. Premièrement, qui est vraiment Satan? A. Satan est un être spirituel créé, c'est-à-dire qu'il n'est pas un être humain. Satan était destiné à être un serviteur du Seigneur dans le domaine angélique. Notez Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. B. Son nom était Lucifer, lorsque il était un ange supérieur, voir de nouveau ce passage en Ésaïe. Le nom Lucifer signifie « astre brillant ». C. Lorsque Lucifer fut précipité du ciel, notez Saint-Luc, chapitre 10, verset 18, et Jude, verset 6, il reçut le nouveau nom de Satan. Notez Saint-Matthieu, chapitre 4, verset 10, etc. Le nom Satan signifie celui qui est, qui haït Dieu et y accuse le peuple de Dieu. D. Satan a plusieurs noms, comprenant le serpent, le diable, le tentateur, Belzéboul, le malin, le meurtrier, le prince de ce monde, le prince des ténèbres, l'adversaire, et le père du mensonge. Deuxièmement, pourquoi l'intérêt de Satan est-il de s'opposer à nous? A. Pour Satan, le peuple de Dieu est son opposant, parce que nous ne nous rébellerons pas contre Dieu avec lui, parce que en désirant accomplir la volonté de Dieu, nous démasquons celui qui s'est rebellé contre le Seigneur lorsque Satan occupait une place élevée. Chaque acte d'amour volontaire de notre part irrite Satan. B. L'attitude de Satan envers Job. Notez Job, les chapitres 1 et 2. Eh bien, cette attitude est la même envers nous. Satan a menti à propos de la fidélité de Job et il n'y avait aucune raison à lui de faire du tort à Job, de manière à voir comment Job se tirerait des mensonges qu'il avait dit. C'est si comme Job, nous sommes justes ainsi que volontaires, Satan nous considérera comme son ennemi et il fera tout pour nous empêcher de ressembler à Christ. D. Comme nous l'avons vu dans certains versets tels que 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18 et Apocalypse chapitre 2 verset 10, de même que dans l'histoire de Job, la vie du Seigneur Jésus, les actes des apôtres et partout ailleurs, Satan ne reculera devant rien pour entraver l'œuvre de Dieu, interférer dans nos communications divines. Ce n'est que l'une de ses tactiques. Et puisque Satan ne peut pas vaincre le Seigneur, parce que Dieu est à la fois souverain et tout-puissant, en contrepartie, il s'oppose à nous. Et oui, il s'oppose à nous de manière à provoquer la confusion. Troisièmement, pourquoi le Seigneur permet-il que nous soyons combattus de cette manière-là? Voici les réponses. A. Puisque l'entrée du péché dans notre domaine humain est plus qu'un mystère, voir notre titre sur Internet, 3xW, bible explique en un seul mot.ch. Le péché, son origine, sa puissance et sa ruine, vous trouverez tout cela. Nous ne devons pas être dogmatiques. Cependant, nous en savons assez pour être capables de faire face à une telle opposition lorsqu'elle se présente. B. Le passage de Job, chapitre 1, verset 8 à 12, semble suggérer que l'opposition satanique est parfois permise pour nous éprouver. Et en même temps, cela montre à Satan que nous sommes fidèles. C. Notez Job, chapitre 1, verset 20. Ce verset-là semble suggérer que l'opposition satanique peut nous rendre plus fervents dans la prière et qu'elle nous donne une plus grande conscience de notre besoin du Seigneur. D. Notez Job chapitre 2, versets 7 à 10. Là, on peut dire, il nous semble suggérer que le Seigneur permet l'opposition satanique de manière à nous montrer ce que est l'orgueil et de manière à ce que les autres, en voyant notre patience dans l'épreuve, soient interpellés. Et l'histoire de Daniel, notez chapitre 10, versets 1 à 14, cette histoire suggère que le Seigneur permet parfois l'opposition satanique de manière à nous enseigner la patience et à accepter l'heure du Seigneur. Nous pourrions continuer en sondant les Saintes Écritures et en notant la manière dont Satan a entravé de nombreuses personnes du peuple de Dieu de diverses manières. Ensemble, toutes ces histoires présentent un tableau unique et complet de la stratégie de Satan. Cependant, elles montrent également comment le Seigneur peut utiliser l'opposition de Satan pour sa propre gloire, en créant une foi nouvelle dans nos cœurs, en conséquence de notre persévérance personnelle dans toutes ces épreuves. Quatrièmement, comment les chrétiens peuvent-ils surmonter cette opposition satanique? A. En ne laissant aucun accès à Satan, en ne lui accordant aucune chance de réussite, en ne l'encourageant pas, et cela d'aucune manière que ce soit. Notez Romains, chapitre 6, verset 13. B. En revêtant toute l'armure de Dieu, telle que la vérité, la justice, la foi, le salut, la prière et l'évangile, contre l'opposant, notez Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. C'est par une louange régulière et librement offerte au Seigneur Jésus, ce qui mettra toujours Satan en colère, ce qui l'encouragera à partir, puisqu'il est, il haït tout amour montré au Seigneur Jésus. Notez Saint Matthieu, chapitre 26, verset 30, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, Éphésiens, chapitre 5, verset 19, et notez Jacques, chapitre 5, verset 13. D. On a dit comment les chrétiens peuvent-ils surmonter cette opposition satanique. Nous arrivons à D. En étant tout simplement en compagnie et en fréquentant d'autres croyants. Puisque le rassemblement du peuple de Dieu attire la présence du Saint-Esprit et qu'il décourage ainsi la présence de Satan. Notez Saint Matthieu, chapitre 18 et 19, ainsi que Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Et en désirant et en encourageant la croissance des vertus divines cardinales, telles que la foi, l'espérance et l'amour, qui peuvent tirer les chrétiens de découragements immatures et leur donner la force pour pouvoir y faire face. Notez 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. F. En faisant fréquemment mention du saint nom du Seigneur Jésus, de manière audible et dans la foi, sachant que le nom de Jésus est si puissant que même les démons tremblent et partent lorsqu'il est prononcé avec foi. Notez Philippiens, chapitre 2, verset 10, Saint Luc, chapitre 10, verset 17, et Actes, chapitre 3, verset 16. Si le nom de Jésus est utilisé comme un mot de 5 lettres, et cela pour blasphémer, ou comme un talisman, ou encore comme un fétiche, alors là, il n'y a aucun avantage. La foi uniquement en son saint nom produit la bénédiction, comme nous le pouvons lire et noter Actes chapitre 3, verset 16. G. En ayant tellement les principes de la Sainte Parole dans le cœur et dans l'esprit, que même Satan ne peut les ôter ou détruire notre fermeté. Notez Hébreux chapitre 4, verset 12, Éphésiens chapitre 6, verset 17, et Apocalypse chapitre 1, verset 16. H. Par une confiance simple que le sang du Seigneur Jésus est tout puissant dans sa force pour purifier du péché, pour justifier les chrétiens qui a été racheté par le peuple de Dieu, pour donner le pardon et pour acheter à la fois notre liberté présente et notre félicité future. Et là, notez Saint Matthieu, chapitre 26, verset 28, et Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, Romains, chapitre 5, verset 9, Hébreux, chapitre 9, verset 14, 1er Épître de Pierre, chapitre 1, verset 18 et 19, 1er Épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 7, et Apocalypse, chapitre 1, verset 5, ainsi que chapitre 7, verset 14. I. Comment les chrétiens peuvent-ils surmonter cette opposition satanique? Eh bien, en voulant, dans notre esprit, être remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit notre guide, afin qu'il y ait audace et assurance. Notez Actes, chapitre 4, verset 8, ainsi que le chapitre 6, verset 5, et continuons au chapitre 7, verset 55, chapitre 11, verset 24, et toujours dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 9. Ige, en recourant aux avis, aux conseils et à l'expérience de ceux qui sont plus mûrs dans la foi que nous, c'est-à-dire tels que les anciens qui ont été appointés par le Seigneur. Notez Jacques chapitre 5, versets 13 à 16. Ça, pour prendre un exemple. Car, en reconnaissant que celui qui est en vous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Notez 1er Épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 4. Elle, en nous assurant qui y est consacré. Et là aussi, je vous prie de voir Internet toute la série concernant la prière. Internet, j'ai dit, 3xwbibleexplique.ch. M. En étant important, c'est-à-dire en étant ferme, en étant conscient de ce que nous sommes et que de ce que nous croyons, et que nous soyons résolus dans la persévérance. N. Par l'abnégation de soi-même, même au point parfois de jeûner, si cela s'avère nécessaire. Chers amis, le point que nous devons nous rappeler, c'est que les êtres humains ne peuvent pas vaincre l'opposition satanique en utilisant des armes humaines. Nous ne pouvons atteindre la victoire que si nous utilisons des armes spirituelles, et cela dans la puissance du Saint-Esprit. Pour terminer, chers amis, les soldats du Christ que nous sommes, il est dit, et je vous le dis, levez-vous et revêtez l'armure. Soyez forts dans la force que Dieu a pourvue par son Fils éternel. Mais voilà, quelqu'un pourrait maintenant, fort à propos, signaler que le grand prophète Daniel devait savoir tout ceci. Daniel était un grand homme de prière. Il devait donc connaître tout ce dont que nous avons convenu. Et pourtant, oui, pourtant, il a dû attendre 3 semaines. La seule réponse possible, c'est que Daniel savait tout cela, que le Seigneur est venu à son aide, bien que cela a eu pris 3 semaines. Donc, l'opposition était vaincue. Dieu a envoyé un ange puissant, et dans la puissance du Seigneur, Daniel a vu la réponse à sa prière. Nous pouvons tous dire ensemble gloire à Dieu. Amen. Et chers amis, je voudrais maintenant prier ensemble, mais je voudrais vous dire une strophe d'un très ancien cantique. Ensuite, nous prierons et je vous mettrai quelques chants d'un assez lointain, oui, on peut dire des années lointaines, 1952. C'était tout un groupe qui s'appelait les Gédéons et ils se trouvaient dans la ville de La Chaux-de-Fonds en Suisse. Oh, il y a fort longtemps de cela, certains d'entre eux sont déjà depuis un bon moment au ciel avec le Seigneur. Mais vous recevrez tout de même quelques bénédictions en les écoutant. Voici donc la strophe de l'ancien cantique. Je suivrai Jésus-Christ, de la divine grâce, accorde-moi, grand Dieu, le secours efficace. Soutiens mon faible cœur, enflamme mon esprit. Enseigne-moi, Seigneur, à suivre Jésus-Christ. Je suivrai Jésus-Christ avec persévérance. Il m'a acquis tout par son sang précieux. Il couvre mon offense. Des suites du péché, le Sauveur me guérit. C'est en lui que se trouve ma paix. Je suivrai Jésus-Christ. Prions maintenant. Ô notre Sauveur, qui nous a laissé un exemple, afin que nous fassions comme tu nous as fait. Donne-nous d'être parés d'humilité et de charité. Toi, qui étant en forme de Dieu, tu n'as point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu, et qui pour nous sauver, tu t'es anéanti toi-même, en prenant la forme de serviteur, tu t'es abaissé et tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort. Mets en nous les mêmes sentiments qui étaient en toi. Remplis-nous d'humilité et de charité, afin que nous apprenions à regarder les autres comme plus excellents que nous-mêmes, afin que nous ne reculions devant aucun sacrifice, aucun renoncement, pour faire partager à d'autres les grâces que nous avons reçues de toi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus que celui qui l'a envoyé. Sauveur doux et débonnaire, Que notre sainte et glorieuse ambition puisse être et demeurer tes disciples et être tes serviteurs. Enseigne-nous à nous aimer les uns les autres selon ton commandement, afin que le monde soit contraint de reconnaître en nous tes enfants. Glorifie-toi ainsi dans tous ceux qui se réclament de toi et fais qu'ils soient réellement un pour travailler à ta gloire et pour publier les vertus de celui qui nous a aimés et qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Exauce-nous pour l'amour de ton Saint-Nom. Amen. Et maintenant, je vais essayer de vous mettre quelques chants d'un assez lointain passé, et en ce temps-là, les CD n'existaient pas.
J'aimerais savoir pourquoi les yeux de mon enfant ressemblent tant au mien. J'aimerais savoir comment les pétales de rose s'ouvrent chaque matin. J'aimerais savoir pourquoi, quand on enterre un grain, il devient un épi. Comment une chenille devient en quelques heures un papillon joli. Comment tous les grands fleuves descendent à la mer sans jamais la remplir. Comment les hirondelles, sans montre ni boussole, savent qu'elles vont partir. J'aimerais savoir comment, lors des grandes marées, la mer est déchaînée. Comment ces tonnes d'eau, comme un fétu de paille, sont alors soulevées. Je sais seulement que Dieu est grand. Dieu est grand. Il tient l'univers dans sa main, oui. Dieu est grand. Qui peut me dire pourquoi mon corps qui est si jeune vieillira lentement? J'aimerais bien savoir quel est le mécanisme de l'horloge et du temps. Pourquoi la vie est née sur la petite terre au fond de l'univers. Au milieu des étoiles, elle n'est pas plus grosse qu'un simple grain de poussière. Je ne sais pas pourquoi quand le vent souffle fort, mes yeux ne le voient pas. Je ne sais pas comment se formera la glace qui frappe sous mes pas. La route des nuages est toujours bien tracée pour déverser la pluie. Sans aucune distinction sur les bons les méchants, toujours le soleil lui. Je sais seulement que Dieu est grand. Grand. Il tient l'univers dans sa main, oui, Dieu est grand. Je sais seulement que Dieu est grand. Dieu est grand. Il tient l'univers dans sa main, oui.
Thank you. une centaine d'années environ, un train de l'Est des États-Unis roulait vers la ville du célèbre évangéliste Moody à Chicago, dans l'Illinois. Parmi les passagers de ce train, il y avait un jeune musicien, Philip Bliss, qui partait avec sa femme aider l'évangéliste américain. Près d'une petite ville de l'Ohio, un pont s'effondra, plongeant ainsi le train dans une rivière glacée. L'histoire dit que Bliss remonta à la surface et, ne voyant pas sa femme, retourna la chercher. Réunis pour toujours dans les eaux glacées, ils sont morts ensemble. Le chant que nous allons interpréter fut trouvé dans leur valise. Il fut écrit le 20 décembre 1876. Son titre dit ceci: « Oh, quel bonheur de le connaître !» Il exprime simplement tout ce que l'Évangile apporte dans une vie.
La promesse d'un Dieu pas.